France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Un institut de sondage est-il plus proche de l'Institut Pasteur ou de l'Institut d'esthétique au coin de la rue ? Pourquoi parle-t-on d'institut dès lors qu'il s'agit de désigner des sociétés privées dont l'activité consiste à réaliser des enquêtes d'opinion destinées à être vendues à des clients ? Pour répondre à ces questions, on peut se tourner vers les arguments classiques de la critique des sondages, comme de leurs effets d'ailleurs, trop souvent minimisés. Mais on peut aussi mener un autre type d'enquête, ethnographique celle-là, et pousser la porte des dits instituts en vue d'observer comment sont produits, mais aussi commercialisés ces sondages. C'est ce qu'a fait Hugo Touzé, il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. On va parler métier, donc aujourd'hui à la suite dans les idées, on va parler sondeur, métier de sondeur, mais on va parler aussi métier de correcteur. Après tout, il s'agit parfois de corriger des données, de corriger des textes, de redresser. On va parler, c'est un peu mystérieux, des frères Boutmy qu'on trouve à la fois dans l'univers des sondages et dans celui de la typographie. Ce sera en deuxième partie avec Hélène Frédéric qui publie Lézarde aux éditions Verticales. Mais avant ça, bonjour Hugo Touzé.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous publiez aux éditions de l'École des études en sciences sociales « Produire l'opinion, une enquête sur le travail des sondeurs ». Alors on le sait, les sondages ont fait l'objet depuis fort longtemps maintenant et l'article canonique est celui tiré d'une fameuse conférence donnée à Arras en 1972 par Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », publié dans Feu, la revue « Les temps modernes », dirigée alors par Jean-Paul Sartre, un article que des générations et des générations d'étudiants en sciences politiques, ont été amenés à lire. Cette critique, elle a été développée, je dirais, par la suite, par de nombreux chercheurs et chercheuses. Elle est toujours assez largement pertinente, et d'ailleurs, elle occupe une partie des sondeurs que vous avez rencontrés. On a lu aussi des travaux de sociologie politique sur la manière dont les enquêtes d'opinion étaient administrées, sur la façon dont les plus précaires, en particulier, étaient employés à faire passer des questionnaires sur le terrain. Tout ça a été documenté. Mais vous, au fond, vous ouvrez la boîte noire des boîtes noires. C'est-à-dire que vous avez réussi à pénétrer à l'intérieur d'un institut de sondage et que vous avez aussi rencontré d'autres sondeurs qui travaillent pour d'autres instituts. C'est un tout petit milieu professionnel, c'est dire la difficulté qu'il y a aussi à le pénétrer. Une 11 sociétés en France, un peu plus d'une centaine de personnes, voilà la population qui vous intéresse et sur laquelle vous avez mené cette enquête. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sein du sein des sondages, jusqu'alors assez peu éclairé par la sociologie ?
C'était déjà ce paradoxe que vous avez mentionné, c'est qu'on a en sociologie, en sciences politiques et peut-être même plus largement, médiatiquement, dans les discours politiques, énormément de critiques des sondages. Il y a toute une littérature internationale. En France, vous avez mentionné principalement dans les travaux, la suite des travaux de Pierre Bourdieu, Daniel Gaxi, tout un tas d'auteurs qu'on pourrait citer. En miroir de ça, une omniprésence aujourd'hui des sondages qui est difficilement contestable, qui est difficilement contestable à la fois dans la politique et dans les médias, mais aussi, il faut le dire, dans le secteur privé. Les sondages, on y reviendra peut-être, sont majoritairement des outils au service du secteur privé. Mais en regard, très peu, voire aucune enquête sur les producteurs et les productrices de ces données. Et moi, je suis d'abord parti des travaux de sociologie de la quantification qui nous explique bien que les données ne sont jamais données, mais toujours produites. Et donc, une des questions un peu basiques, élémentaires, a été de savoir par qui et comment sont produites ces données.
Vous l'avez les travaux d'Alain Desrosières, d'Emmanuel Didier, notamment, d'Olivier Martin. Voilà,
sur cette idée qu'il n'existe pas de chiffres dans l'absolu, qu'il s'agirait simplement de se baisser pour collecter, mais que ce qui est mesuré est toujours en partie un petit peu créé en même temps qu'on le mesure. Et il y avait, effectivement, vous avez mentionné, quelques travaux, notamment sur les petites mains, les personnes qui aller administrer dans la rue ou par téléphone les questionnaires, notamment les travaux de Rémi Cavingue. Mais personne n'avait travaillé avec ce regard-là au sein des instituts, c'est-à-dire sur les salariés qui sont des gens très diplômés, on pourra aussi revenir sur leur profil, et qui ont en charge, en gros, depuis la vente jusqu'à la diffusion des résultats de ces sondages-là.
Alors c'est intéressant que vous commenciez votre phrase par « depuis la vente », parce qu'au fond, souvent tout commence là. C'est-à-dire qu'avant même de concevoir, d'imaginer une enquête, ou en tous les cas de la réaliser, on cherche d'abord à la financer, cette enquête. Et donc on cherche des clients. J'aimerais, avant qu'on rentre dans la manière qu'on a de fabriquer un questionnaire, dans la manière qu'on a de traiter les données brutes produites, etc., j'aimerais qu'on parte de cette première phase, celle de la commercialisation des sondages, parce qu'il me semble que c'est au fond ce qu'il y a de plus méconnu, probablement. Le reste, on peut le deviner à partir des critiques méthodologiques.
Justement, moi, ce qui m'a intéressé, et il faut peut-être faire un tout petit pas en arrière sur le profil de ces sondeurs et ces sondeuses, c'est que ce sont des gens qui, pour la majorité, ont fait des études de sciences sociales, ont fait des licences de sociologie, de sciences politiques, d'histoire, connaissent les critiques que vous avez mentionnées sur Pierre Bourdieu et savent, en quelque sorte, comment on fait un bon questionnaire, comment on quantifie correctement l'opinion publique. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'immédiatement, arrivé dans la sphère marchande et professionnelle qu'est l'Institut de sondage, va se créer une forme de tension entre cette volonté de bien faire son travail, cette volonté de faire la meilleure enquête possible.
Je vous arrête. Ouais. Vous voulez dire, les gens sont formés correctement, ils apprennent toutes les critiques méthodologiques, ils ont à cœur de faire leur métier, et puis ils arrivent dans une entreprise, dans l'un de ces instituts de sondage, et ils essayent de mettre en œuvre tout ça, et parfois ils y arrivent, mais ils le font dans un système de contraintes très fort, et ces contraintes sont d'abord et avant tout dictées par les clients, par la capacité à vendre ces enquêtes.
Il y a avant tout une contrainte qui est économique, marchande, comme quelque part dans toute relation commerciale de prestation de services. Et j'ai une enquêtée qui, quand je l'interroge sur la constitution des enquêtes, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour définir la taille d'un échantillon, elle me dit, c'est en fonction des exigences du client. Et elle me dit cette phrase que j'ai bien aimée et que j'ai mis dans le livre, elle me dit, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu, mon chef m'a dit, on t'a commandé une Ferrari, tu ne livres pas, si on t'a commandé une deux chevaux, pardon, tu ne livres pas une Ferrari. Donc, sous-entendu, il y a toujours une sorte de négociation, d'arbitrage permanent entre ce qu'on aimerait faire, ce qui est le plus souhaitable d'un point de vue de la méthodologie scientifique de la réalisation de sondages, et ce qui est exigé par le client, contraint par le client. Alors, c'est d'avoir la vente, mais c'est aussi les conditions de production, c'est le fait qu'on est souvent en sous-effectif, qu'on travaille sur 3, 4, 5, 6 études en même temps. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait pour faire le meilleur travail possible dans un environnement qui est un environnement contraint d'un point de vue économique.
Restons encore un peu sur la vente. On pourrait s'imaginer qu'après tout, ces sociétés sont, comme vous le disiez, des sociétés de prestation de services. Et donc, elles sont là pour répondre à une demande de clients qui aimeraient savoir, mettons, au plan politique, un parti politique par exemple, ou alors le Premier ministre à Matignon qui aimerait savoir quelle est l'opinion des Français, je mets des guillemets, à propos de telle ou telle question et qui s'adresse à cet institut de sondage. Ça existe, ce type de relation. Mais ce que vous donnez à voir, la réalité du travail des sondeurs, c'est bien plutôt d'imaginer, eux, des sondages sur des questions possible et de trouver ensuite des clients auxquels vendre ces questions. Quitte à en trouver d'ailleurs plusieurs, de façon à financer correctement une enquête. Alors ça peut être plusieurs médias, ça peut être plusieurs partis politiques. En tous les cas, c'est dans ce sens-là que la plupart du temps, ça fonctionne, Hugo Touzé.
Alors, il y a plusieurs manières de vendre un sondage. Il y a d'abord, et il ne faut pas le minimiser, y compris en termes d'activité et de chiffre d'affaires, la réponse à des appels d'offres. C'est-à-dire que vous avez mentionné le gouvernement.
Le service d'information.
Il y a le fameux service d'information du Premier gouvernement, ministre. Effectivement, qui commande un certain nombre de sondages et pour des sommes conséquentes. Et donc là, les sondeurs et les sondeuses répondent à des appels d'offres.
Ça peut émaner. Ça a fait l'objet d'enquêtes, de scandales.
Il y a par ailleurs tout un tas d'enjeux de sur l'attribution de ces lots, etc. Donc là, on est dans une optique, prenons un autre exemple, l'ordre des avocats. Veut réaliser un enquête, il va s'adresser à des sondeurs, donc là, dans une optique de commande. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces instituts de sondage, moi, je me suis intéressé au département opinion, et les départements opinion, pour le dire vite, ils ne rapportent pas beaucoup d'argent à leurs instituts. Ils ne rapportent pas beaucoup d'argent parce que le gros du chiffre d'affaires, il est réalisé dans les autres départements, c'est-à-dire les enquêtes marketing, commerciales, pour des entreprises qui ne seront, dont les résultats ne seront jamais publiés parce qu'ils ont beaucoup de valeur économique. Et donc, ma population a ceci de particulier, qu'elle représente représente peu en termes du chiffre d'affaires des instituts, mais elle est très importante parce qu'elle contribue à visibiliser, elle contribue en quelque sorte à représenter la vitrine des instituts de sondage. Et donc pour ça, elle cherche, elle a besoin d'une exposition médiatique, elle a besoin que ces chiffres soient repris, elle a besoin que ces chiffres soient exposés, discutés dans l'espace public. Et donc il arrive effectivement qu'il y ait aussi un travail où on va chercher à produire des chiffres dont on sait ou dont on suppose qu'ils vont être repris, débattus, polémiques, etc. Mais je voudrais pas généraliser, ça c'est une facette du travail et ce qui est important, ce que moi j'ai découvert, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un sondage, il n'y a pas un type de commande de sondage, il y a plusieurs types en fonction là aussi des attentes du client et que les sondeurs et les sondeuses vont en quelque sorte ajuster leurs compétences et ajuster les arbitrages qu'ils doivent faire en fonction des attentes du client.
On va revenir sur cet écosystème complexe qui associe ces entreprises de sondage, des clients qui peuvent être des institutions publiques, des partis politiques, des syndicats, et puis des médias, et puis éventuellement aussi l'université, le monde académique qui peut être lié. On va revenir sur tout ça, mais avant ça, j'aimerais qu'on entre avec vous dans l'une de ces entreprises. Pour mener cette enquête, vous avez à la fois réalisé des entretiens, vous avez procédé à une observation ethnographique de l'une de ces entreprises, et puis vous avez eu la chance de faire un sondage sur les sondeurs. Peut-être on va y revenir, mais si on entre dans cette entreprise avec vous, comment vous pouvez décrire la manière dont est organisée une entreprise de sondage? Quelles sont les différentes fonctions? Quelles sont les hiérarchies à l'œuvre? En fait, on ne voit de ces entreprises que les représentants, qui sont tous des hommes. J'ai essayé de chercher, il y a vraiment très peu de femmes qui prennent la parole au nom de ces entreprises de sondage dans les chaînes télé. À quoi ça ressemble l'organisation du travail à l'intérieur d'un institut comme celui dans lequel vous avez pu observer le travail?
Bonne remarque, parce que la première chose qu'on peut dire, c'est que dans les départements opinion que moi j'ai observés, on a une population de travailleurs et de travailleuses qui est majoritairement féminine, à plus de 50%. Ce sont des femmes qui travaillent dans ces instituts et effectivement, ça ne se retrouve pas du tout au sommet de la hiérarchie professionnelle avec ceux que les journalistes appellent les politologues, que dans le métier on appelle les speakers et qui sont ceux, vraiment au masculin, qui sont sur les plateaux télé.
À l'intérieur... Mais je crois que depuis l'histoire des sondages, on n'a jamais vu une femme porter les couleurs d'un institut, jamais en fait.
Ce qui est intéressant, il y a quelques instituts aujourd'hui de plus en plus, mais ça reste très minoritaire, qui ont des femmes, y compris au sommet de leur hiérarchie dans les départements opinion. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand c'est le cas, ces femmes-là sont moins médiatisées, passent moins à la télé que leurs collègues hommes. À l'intérieur des instituts, on a affaire à des gens qui sont plutôt jeunes, hein, puisqu'une grande majorité de la population a moins de 30 ans, moins de 40 ans, donc une population plutôt jeune, et qui se répartit là aussi le long d'une chaîne hiérarchique, allant grosso modo des stagiaires aux directeurs du département, et dont le travail consiste à accomplir l'ensemble des tâches qui sont nécessaires à la réalisation d'un sondage. Donc vous avez mentionné la vente tout à l'heure, mais ensuite il y a tout un tas de processus qu'on peut évoquer rapidement. Il faut ensuite établir l'échantillonnage, c'est-à-dire qui est-ce qu'on va interroger. Il faut établir le questionnaire. Il faut ensuite établir un plan de traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire dire aux chiffres qui nous sont ressortis d'un autre service qui s'appelle la production. Ensuite, il faut analyser ces résultats et la phase finale, c'est les diffuser. Ce qui est intéressant aussi à dire peut-être sur cet écosystème, c'est que c'est un écosystème dans lequel la division du travail est assez importante. Je le disais d'abord, les départements opinion s'occupent des enquêtes opinion et pas des autres. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi une division du travail entre ces instituts. Ils sont une petite dizaine, il y a une très forte concurrence entre ces instituts-là. Et il y a aussi une concurrence, une division du travail verticale, puisque ces instituts travaillent aussi en forme de chaîne de sous-traitance, puisque par exemple, quand on administre des questionnaires, maintenant ça se fait principalement par Internet, et bien les instituts, ça arrive qu'ils procèdent leur propre panel, mais dans des filiales, la plupart du temps, vont s'adresser à des entreprises sous-traitantes dont le métier est uniquement de constituer ces panels de fichiers. Donc une partie du travail des sondeurs, par exemple, va être d'encadrer le travail de ces panélistes qui, eux, ont pour mission de constituer, d'encadrer, de gérer des fichiers de gens.
D'ailleurs, en vous lisant, j'ai eu le sentiment, Hugo Touzé, que la boîte noire des boîtes noires, au fond, c'était ces entreprises de panels. On se demande dans quelle mesure les entreprises de sondage vérifient un peu la façon dont dont ces panels sont construits, la manière dont ils sont entretenus, surtout sur la durée. Ça vaut en particulier pour des enquêtes aussi de type d'audience. Aujourd'hui, ont été publiés les résultats des fameuses enquêtes médiamitrées. C'est vraiment une boîte noire. On ne sait pas très bien sur quel type de panel ça repose. Les mêmes personnes sont amenées à être observées à travers leur comportement sur de très très longues années, sans qu'on sache très bien quels effets ça produit.
Effectivement, on le sait, et par ailleurs les sondeurs le savent. Par exemple, un des biais que vous mentionnez qu'on aimerait éviter d'avoir, c'est ce qu'on appelle le biais de professionnalisation, c'est-à-dire qu'une personne soit interrogée 30 fois dans l'année. Les sondeurs à qui je parle en entretien me disent « l'entreprise de panel nous promet que c'est le cas, moi je sais que c'est pas vrai ». Donc il y a des enjeux comme ça, on sait aussi...
Ils ne se donnent pas les moyens de vérifier, c'est difficile pour eux de vérifier.
C'est difficile pour eux de vérifier, mais en fait le nœud du problème n'est pas tant sur la vérification que sur le modèle économique, parce qu'il faut comprendre que ce que j'ai expliqué sur la concurrence entre les instituts, elle existe aussi entre ces entreprises panélistes.
Et ça tire vers le bas.
Donc, ça tire vers le bas, depuis le client qui veut le sondage le moins cher possible, l'institut et derrière le panéliste qui va faire en sorte, et à la fin, d'avoir l'inter, on appelle ça une inter, c'est-à-dire la personne interrogée qui vaut le moins cher possible unitairement. Et donc, mais c'est vrai, c'est ça qu'invite à interroger aussi le livre, c'est vrai dans n'importe quel métier. Si vous donnez peu de moyens à un journaliste, il fera un moins bon article que si vous lui donnez des moyens. Si vous, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, nous donnez peu de moyens pour travailler, on fera de la moins bonne recherche. Si vous demandez à un sondeur de faire un sondage le plus rapidement possible et le moins cher possible, il vous fournira des données de moins bonne qualité.
Mais comment expliquer le fait que cette population que vous avez étudiée soit si jeune? Est-ce que justement, c'est que au bout d'un moment, la dissonance cognitive, l'écart entre ce que les gens ont appris à l'université et leur pratique professionnelle est trop douloureuse, trop frustrante et qu'ils finissent par quitter le métier?
Il peut y avoir un aspect désillusion, on pourrait parler un désenchantement lié au travail, ça existe. Il y a un autre aspect qui est sur comment fonctionne cet environnement. Je dis, c'est peu de personnes, une centaine. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un plafond de verre qui arrive très, très vite. Pour le dire vite, vous êtes jeune, vous allez être chargé d'études junior, vous allez monter senior, chef de groupe, parfois chef de groupe sans aucun groupe à chefer, ensuite directeur de pôle. Mais très rapidement, les postes qui deviennent un peu intéressants, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce que vous pouvez faire du turnover, aller dans un autre institut pour avoir une petite promotion. Mais le poste, pour le dire vite, très intéressant, du directeur qui va passer très souvent à la télé, etc., bah, vous avez 10 instituts, vous en avez environ 10 en France. Et donc, très rapidement, autour de 30-40 ans,
soit vous créez votre entreprise,
C'est arrivé, et ce qu'il faut dire, c'est que l'intégralité des entreprises de sondage, on pourrait discuter de Cluster 17 qui est un peu à part, mais l'intégralité des entreprises de sondage qui se sont formées sont créées par des anciens sondeurs cadres d'autres instituts. Donc c'est, y compris de ce point de vue-là, un marché très fermé. Mais donc ce qui se passe, c'est que quand ça fait 10 ans, vous avez 10 ans d'ancienneté, vous connaissez parfaitement le métier, mais il n'y a pas de poste auquel vous pourriez prétendre qui est disponible, bah vous allez vous reconvertir dans autre chose. Il faut ajouter un élément, c'est que c'est quand même pas un métier qui est extrêmement bien payé pour ce niveau d'études, c'est un métier qui demande des horaires compliqués, et donc quand vous arrivez, c'est quelque chose d'assez connu en sociologie du travail, quand vous arrivez autour de la trentaine, notamment chez les femmes, et que vous avez un premier enfant, etc., vous allez rechercher des horaires plus souples, des horaires qui permettent de mieux gérer vie professionnelle, vie privée, un peu mieux payé, et donc vous allez vous reconvertir. Ce qui explique que cette population reste très jeune, et en gros, vous avez beaucoup de gens de moins de 40 ans, un gap, et puis des directeurs au-dessus de 50.
Alors, peut-être on peut entrer dans un autre aspect du travail, parce qu'on a beaucoup parlé de la conception du sondage, de sa commercialisation. S'agissant du traitement des données, on entend souvent parler de redressement, de correction. Donc, à la fois ces données, il faut les produire en inventant des questionnaires, mais une fois qu'on a récolté les réponses aux questionnaires, on les publie pas brutes. Comment on justifie le fait de corriger? On emploie souvent la métaphore de l'art ou de la cuisine ou du cocktail ou je ne sais quoi, en tous les cas de choses assez peu scientifiques, mais qui relèvent davantage du pifomètre ou de l'expérience professionnelle.
Ce qu'il faut, cette question, elle est intéressante et elle est aussi très mal connue, très méconnue. Il faut distinguer plusieurs types de redressement. Ce que vous évoquez, ce sont les redressements politiques, je vais y venir, c'est uniquement fait, et c'est important de le dire, pour les sondages d'intention de vote. Mais les sondages d'intention de vote, ils sont assez mineurs en proportion de l'ensemble des sondages qui est fait. Sur l'ensemble des autres sondages, et sur les sondages d'intention de vote aussi, on va uniquement, en quelque sorte, adresser ce qu'on appelle des redressements sociodémographiques. Comme on fait, nous, dans nos enquêtes universitaires, pour expliquer très rapidement, si vous devez avoir 52% de femmes, parce que c'est la structure de la population INSEE, et que vous en avez que 50 dans votre échantillon, vous allez redresser arithmétiquement, accorder un peu plus de poids aux femmes.
Pondérez les résultats.
Vous pondérez les résultats, comme on fait à l'INSEE, comme on fait partout. Ça, ça ne permet pas de corriger les biais liés, par exemple, au recrutement dans les échantillons. Si vous avez peu d'abstentionnistes, ce qui est le cas, vous avez une très très grosse sous-représentation des abstentionnistes dans les panels en ligne, vos redressements, ils ne vont pas vous permettre de corriger ça. Donc ça, c'est la première chose. Pour l'ensemble des sondages, c'est ça qui se fait uniquement. Pour les sondages d'intention de vote, on va rajouter à ça un deuxième redressement qu'on appelle le redressement sur le vote antérieur. Quand vous demandez aux gens pour qui allez-vous voter, vous demandez aussi pour qui vous avez voté la dernière fois. Et comme ça, vous pouvez comparer avec des résultats factuels établis par le ministère et corriger. Donc c'est ce qu'on appelait souvent avant avec la sous-déclaration du vote RN, Front National avant. Les gens sous-déclaraient, donc on corrigeait un petit peu. Et puis vous avez l'expérience, disons, la dernière étape la plus mystérieuse que vous appelez le pifomètre, qui est le directeur, parce que c'est comme ça que ça marche, le directeur opinion, qui va, lui, avec tout un tas de matrices, de corrélations, de chiffres sous les yeux, attribuer des points ou enlever des points. Alors, il faut limiter, hein, il y a aussi beaucoup de fantaisie autour de ça. C'est souvent de l'ordre du 0, 5, 1 point et demi, etc. Et va corriger les résultats à la main. Il y a plusieurs manières d'analyser ça. On va pouvoir dire, effectivement, c'est du pifomètre, c'est de la pifométrie. Un truc intéressant, c'est que quand on regarde les derniers sondages avant les élections, ça marche plutôt bien, en réalité, leur affaire. Comment on explique ça ? En fait, parce que ces sondeurs, qui sont au sommet de leur hiérarchie professionnelle, qui ont une grande expérience, etc., moi, ce que je pense, c'est qu'ils connaissent les biais qu'il y a dans leurs échantillons. Ils connaissent les problèmes dans les panels dont on a parlé tout à l'heure, et donc ils sont capables de voir, par exemple...
Ils savent qu'on a du mal à toucher les abstentionnistes, comme
vous disiez. Ils savent qu'on a du mal à toucher les abstentionnistes, ils savent qu'on a du mal à toucher les très âgés, pour le dire vite, quand vous avez les 65 ans et plus, vous pouvez être à peu près sûr que dans
ils sont
votre
moins
panel,
sur Internet, ils ont moins de téléphones portables, enfin peut-être
exactement.
Moins aujourd'hui. Mais...
Et donc par exemple, pour prendre un exemple, François Fillon, ses résultats bruts, ils étaient toujours sous-déclarés. Pourquoi ? Parce qu'il avait un électorat en partie très âgé et que cet électorat-là était moins présent sur les panels. Donc ce pifomètre ou cet artisanat qui est parfois évoqué aussi, c'est plutôt de la connaissance assez fine des biais inhérents à son matériau et donc une tentative de les redresser. Mais encore une fois, ça n'est appliqué que sur certains sondages et pas sur l'ensemble des sondages. Or, on a tendance à se focaliser sur les sondages d'intention de vote et je pense qu'on sous-estime les effets, y compris les effets sociaux, de tous les sondages d'opinion, les sondages qui imposent des questions dans le débat public, etc.
Qui inscrivent sur l'agenda, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut en sorte qu'un certain nombre de questions se posent, apparaissent normales, naturelles, et organisent la manière dont les panels des émissions de radio, de télévision sont constitués. De ce point de vue, ces entreprises de sondage ont un rôle, une influence assez considérable sur la structuration de l'espace public. Je voudrais qu'on revienne justement sur cet écosystème-là et qu'on revienne à la question que je posais au départ, pourquoi ils tiennent tant à s'appeler instituts ? Parce que ils ont besoin d'une forme de légitimité scientifique en dépit du caractère strictement commercial de leur activité, à la différence des laboratoires universitaires. Mais ils ont besoin d'autres choses aussi. On a pour l'instant décrit les relations entre des clients et des entreprises de sondage. Mais en fait, si on regarde bien, si on regarde mieux, on s'aperçoit que souvent la relation est triangulaire. Ils ont besoin des médias pour venir solidifier cette relation, au fond, lui donner une forme d'objectivité. Je suis frappé comme journaliste par le nombre de mails que je reçois chaque jour qui émanent d'entreprises privées, qui émanent de syndicats professionnels, qui émanent de syndicats de salariés, qui émanent d'associations, d'ONG, de tout type d'acteurs sociaux qui me communiquent à moi, journaliste, les résultats d'un sondage qu'en général, ils ont commandé parce qu'ils cherchent à faire accrédité par les médias, par la presse, les résultats de ce sondage et qui, en quelque sorte, ils tentent de fournir clé en main des sujets d'articles à des journaux. Ça, c'est l'une des versions. L'autre version, c'est celle qui consiste à associer dès le départ un journal dans une boucle fonds qui réunit entreprises de sondage, commanditaires du sondage et médias. C'est une structure très classique et qui permet de manière circulaire, de renforcer les légitimités de tout le monde. Hugo Touzé.
Oui, il faut On va revenir, je vais venir à la question des liens entre sondage et médias, mais peut-être, et c'est ce que je fais aussi dans le livre, revenir sur pourquoi cette notion, ce terme d'institut, revenir un peu à l'histoire de la profession. C'est une profession qui a été fondée au début du XXe siècle, autour des années 1920-1930, qui a été fondée vraiment à la jonction entre le milieu universitaire, le milieu strictement économique et le milieu politique. Pour le dire vite, les premiers sondeurs, ce sont des universitaires reconnus.
On peut renvoyer au travail très important de Loïc Blondiaux sur le sujet.
Effectivement, qui a écrit un bouquin, La fabrique de l'opinion publique, où il revient sur cette socio-histoire, sa thèse, exactement. Et donc, les sondeurs, ils vont avoir très vite un discours qui va reposer sur trois piliers. D'abord, nous, on est un instrument scientifiquement établi, donc légitime d'un point de vue scientifique. On est un instrument qui est efficace économiquement pour les entreprises, mais on n'est pas que ça. On est aussi indissociable de la démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous, on vous propose un outil qui permet tout le temps et sur tous les sujets de savoir ce que pense le peuple. Et donc, ça, c'est ça. On est dans les années 30, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. À cette époque-là, Georges Gallup, un des fondateurs des sondages, tient ce discours très important et en disant, nous, on a un outil qui va vous permettre de renforcer la démocratie dans un contexte de montée des fascismes, etc. Et ce discours-là, avec ce que je disais sur les liens plus organiques entre les sondeurs et le milieu académique, a perduré, même si c'est étiolé à certains égards, a perduré dans le temps. Et donc, le fait que les instituts s'appellent aujourd'hui des instituts, il y a effectivement une forme de malice, puisque ça donne l'idée qu'on est quelque chose de pas strictement commercial, mais c'est aussi à aller chercher dans les racines de la profession, qui a toujours, en quelque sorte, revendiqué le fait de ne pas être, pour reprendre leur expression, que des marchands de pourcentage, mais d'être aussi des gens qui contribuent au débat public, au bon fonctionnement de la démocratie, etc. Pour prendre un seul exemple, les sondeurs vont en permanence. Et l'exemple que vous donnez sur les journalistes, sur les entreprises qui vous sollicitent est intéressant de ce point de vue-là. Les sondeurs vont en permanence dire, il y a plein d'idées qui circulent dans la société, notamment parce que les médias, ceux qui ont les pouvoirs, vont pouvoir imposer leurs idées. Nous, on va permettre d'objectiver les faits. On va pouvoir d'objectiver qui pense quoi. Donc vous voyez, ce discours, on est utile à la démocratie, il est encore présent aujourd'hui.
Alors, je vais donner un exemple de cette présence. On pourrait s'arrêter sur la série d'enquêtes Fracture française, dont la dernière vague a été publiée récemment. Quand on regarde qui est partie prenante de cette enquête, alors l'entreprise de sondage, c'est Ipsos, mais Ipsos n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des commanditaires, et on peut être surpris d'ailleurs de la coexistence de commanditaires émanant des deux camps de gauche et de droite, c'est-à-dire d'un côté la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank proche du Parti Socialiste, même organiquement lié à ce parti politique, et puis l'Institut Montaigne, qui est le principal think tank à droite. Comment je ne crois pas que dans d'autres pays, on ait des cas de figure similaires où des think tanks de gauche et de droite se s'allient pour commander une enquête à un institut qui est par ailleurs doublement validé, d'un côté par un laboratoire de recherche, le CVPOF, un laboratoire de Sciences Po, et d'autre part un grand journal, Le Monde. Et donc, on a là, au fond, une sorte d'objectivation de ce complexe politico-médiatico-sondagier tel qu'il existe et produit des effets de structuration de l'espace public assez considérables, Hugo Touzet.
Oui, ce qui est intéressant, alors c'est peut-être à la fois très emblématique et à la fois aujourd'hui devenu très minoritaire parce qu'on aurait du mal à trouver d'autres exemples. Les liens entre les universités et les sondages ont toujours existé. Moi, j'avais travaillé sur les enquêtes de Michelat et Simon, Guy Michelat et Michel Simon, qui avaient...
Religion, classe et politique.
Religion, classe et politique. Et puis en fait, qui avaient commandé au tournant des années 60, qui avaient eu commande du Parti communiste français pour mener des enquêtes sur la représentation de la classe ouvrière, etc., qui étaient faits par des universitaires très réputés et en lien avec l'IFOP à l'époque déjà. Parce que l'IFOP avait, pour le dire vite, l'infrastructure qui permettait de faire les sondages. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup atténué dans le temps. Et effectivement, on a aujourd'hui ce dernier exemple, peut-être, qui est l'Institut Ipsos qui réalise le sondage pour le CVPOF. Mais vous avez à côté tout un tas d'universitaires qui ont développé, par exemple, on a un panel universitaire qui s'appelle Ellipse, qui a vocation à, en quelque sorte, sortir de cette peut-être dépendance aux instituts et aux complexes que vous évoquez.
Mais il me semble que les entreprises de sondage ne pourraient pas avoir la puissance qu'elles ont aujourd'hui si, d'une part, elles ne trouvaient pas à relégitimer en permanence cette scientificité, mais si, pour le faire, elles ne bénéficiaient pas du soutien des médias, en fait. Et les médias sont aussi contents de trouver des ressources auprès des instituts de sondage. Je voudrais juste faire état d'une expérience personnelle. Il se trouve que quand j'ai été directeur adjoint de la rédaction de Libération, avec Nicolas Demorand, qui dirigeait le journal, nous avions décidé d'arrêter de commander des sondages pour ce journal. Le service politique journal était furieux contre notre décision, parce qu'il nous disait on va plus être repris dans les revues de presse. Et nous, on a dit, mais en fait, l'argent qu'on dépense, qui n'était pas énorme, parce que les instituts de sondage ne font pas payer très cher aux médias, ils ont intérêt à médiatiser leurs résultats. Mais malgré tout, c'était une certaine somme pour un journal qui allait pas bien. Eh bien, cette somme, on avait décidé de l'allouer au reportage. De dire, ben, on préfère des grands reportages, on préfère trouver des moyens pour que des reporters aillent sur le terrain. Ça nous semble plus intéressant que les sondages, qui de toute façon sont produits ailleurs, et que si on a besoin de commenter, on peut les commenter. Cette petite expérience personnelle m'a donné à penser longtemps sur la manière dont sont imbriqués, au fond, ces rôles de journaliste politique, d'éditorialiste, de sondeur. Hugo Touzé.
Ouais, je voudrais revenir à Pierre Bourdieu, parce que vous avez commencé comme ça. Pierre Bourdieu, il disait dans cette conférence inaugurale sur la question des sondages, l'opinion publique n'existe pas. Il dit quelque chose de l'ordre, en gros, le sondage est un objet des dominants pour imposer ses questions dans... Il y a quelque chose qui est à la fois totalement dépassé et très actuel encore dans cette phrase de Pierre Bourdieu. Pourquoi totalement dépassé? Parce qu'à l'époque où il écrit, il y a trois instituts, faire un sondage, ça coûte très cher et c'est très long. Et donc, effectivement, c'est plutôt réservé, pour reprendre ces termes, aux dominants. Aujourd'hui, un sondage, ça coûte pas grand-chose et n'importe qui peut se le payer.
8000 euros.
Voilà, 8000 euros, ça peut être moins selon la qualité du sondage, mais en gros, vous prenez n'importe quel débat de société, l'écologie, la cause LGBT, peu importe, les pour et les contre, les opposants et les partisans vont avoir les moyens de commander un sondage. Ce qui, par contre, a totalement encore son actualité, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de donner une force sociale à son sondage. Et là, effectivement, intervient la question du couple média-sondage. Et pour revenir, par exemple, à un cas précis, le journal L'Humanité commande chaque année un sondage sur la lutte des classes, le capitalisme, avec des questions très détaillées sur ces enjeux-là. Ce sondage, il est publié par L'Humanité, il est réalisé par un institut de sondage, mais il n'a pas du tout la même reprise que n'importe quel sondage qui va être sur des enjeux de délinquance, sur des enjeux d'immigration, etc. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est entré dans un modèle des médias où, même si en termes d'audience, ce n'est pas forcément les plus importants, bah, notamment l'information en continu va dicter l'agenda médiatique. On parlait de ça. Et ça correspond aussi, vous l'avez mentionné, au même titre qu'il faut analyser les regards, le travail des sondeurs avec un regard économique, il faut aussi analyser l'économie des médias de ce point de vue-là. Vous avez effectivement un journalisme de plus en plus low cost dans certaines rédactions, avec une presse qui va mal, hein, d'un point de vue de ses modèles économiques. Et donc, commander un sondage sur lequel vous allez faire parler quatre chroniqueurs et chroniqueuses pendant une heure, bah, ça vous coûte aussi moins cher que, effectivement, peut-être qu'à Libération, vous aviez fait un choix différent, mais que d'envoyer des journalistes sur le terrain, etc. Et donc, il y a une forme de... Pourquoi on peut parler de couple ? Parce qu'il y a une forme de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, le média va trouver de l'information à pas cher, de quoi meubler l'actualité. Par ailleurs, parenthèse, ce que bien montré les sociologies des médias, c'est que quand on convoque le sondage, ça permet aussi de convoquer la figure de la foule, hein, et donc de la population. On dit souvent « les Français pensent », et donc quand vous convoquez le sondeur sur votre plateau, vous convoquez un peu aussi les Français. Et la deuxième chose, en regard, c'est que les sondeurs eux-mêmes vont y gagner, ce qu'on a dit tout à l'heure, de la visibilité, de la reconnaissance sur leur capacité d'analyser les phénomènes sociaux. Et donc, il y a ce couple qui ne peut pas se penser de manière dissociable.
À tel point d'ailleurs, parce que ce qui est passionnant dans votre livre, Hugo Touzé, c'est que vous montrez comment les modèles économiques des entreprises de sondage pèsent sur la réalisation des sondages eux-mêmes, mais ce sont aussi les modèles économiques des médias qui viennent peser sur les modèles économiques des entreprises de sondage, puisque vous parlez de la façon dont un jeune sondeur va être amené à imaginer un sondage qui produirait à l'arrivée dans la presse des articles putaclic, dit-il. Donc ces modèles médiatiques sont parfaitement intégrés dans les gens qui imaginent des possibilités de sondage avant d'avoir des clients.
Effectivement, et au risque par ailleurs d'appauvrir la qualité de l'analyse qu'on peut en provoquer, et ça cause dans certains cas, qui sont minoritaires mais qui disent quand même quelque chose, ça peut causer des conflits hein, entre les sondeurs et leurs commanditaires parfois, puisque, pour le dire vite, une donnée, quand elle est produite depuis son achat jusqu'à sa production, appartient au client, et donc c'est le client, en l'occurrence le média, qui va décider comment il l'expose. Et souvent, le média va pas chercher à aller voir dans la complexité du sondage, mais va sortir le chiffre clinquant, etc., au risque d'appauvrir la qualité de l'analyse et au risque parfois de dire un peu des bêtises qui vont entacher par la suite la réputation du sondeur.
Le temps file, mais une dernière question quand même, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la façon dont on organise, on garantit la scientificité des médias. On a même vu le législateur inscrire dans la loi un non-sens scientifique, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises de sondage de publier les marges d'erreur d'enquête. Or, ces enquêtes sont réalisées par quota. Une enquête par quota, mes souvenirs de mathématiques, je ne suis pas allé très loin jusqu'à la terminale, m'ont laissé l'idée qu'on ne pouvait pas calculer de marge d'erreur s'agissant de sondages qui ne sont pas des sondages par tirage au sort.
Effectivement, alors là, sans rentrer trop dans la technique, mais pour le dire vite, évoquer les marges d'erreur pour des sondages réalisés avec une méthode des quotas n'a pas de sens d'un point de vue de la
théorie statistique. Pourtant, c'est exigé par la loi aujourd'hui.
Pourtant, c'est exigé, mais il y a peut-être là un jeu, vous parlez de la commission des sondages, notamment c'est la commission des sondages qui est chargée de veiller à l'application de cette mesure, et c'est un exemple assez illustratif, parce que la commission des sondages n'a évidemment aucun moyen de vérifier, on peut discuter du bien fondé de cette mesure, mais elle n'a derrière aucun moyen d'appliquer le bien fondé, parce que la commission des sondages est totalement sous-dotée, qu'elle est un organisme de régulation en réalité qui sert plutôt à conforter les sondeurs dans leur position, dont ils se servent aussi parfois pour contrôler le marché, c'est-à-dire éviter que d'autres entreprises entrent sur le marché. Donc cette commission des sondages, effectivement, elle est très très sous-dotée et donc peu en capacité d'effectuer la régulation qui est censée être son travail.
On continue à parler d'un métier, on continue à rester dans l'univers de la presse avec Hélène Frédéric qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est après un extrait d'un album surprenant qui vient de paraître, d'un album de duo imaginé par Chrissy Hynde, la chanteuse des Pretenders. Et ce morceau, elle l'interprète avec Cat Power et c'est une reprise d'un titre de Morrissey, First of the Gang to Die.
Gully.
Continue à parler de métier. On a abordé celui de sondeur. On va passer dans un tout autre univers professionnel avec vous, Hélène Frédéric. Vous publiez aux éditions Verticales Lézarde, qui est un livre sur certaines de vos expériences professionnelles dans un milieu riche d'une histoire que vous relatez par fragments, dont vous vous sentez d'une certaine façon l'héritière, sans jamais le proclamer ainsi. C'est celui des correcteurs et des correctrices de presse ou d'édition, des gens qui travaillent sur le texte. Et cet univers professionnel, en vous lisant, m'a semblé à bien des égards l'exact contraire de celui qu'on vient de décrire. Il est composé de gens qui ne sont pas de jeunes diplômés, mais plutôt de vieux autodidactes, on pourrait le dire comme ça. Alors il y a un peu des gens de tous les âges, mais il y a beaucoup d'autodidactes et il y a aussi beaucoup de gens qui, contrairement aux sondeurs, sont très engagés, discrètement engagés, mais radicalement libertaires pour beaucoup d'entre eux.
Oui. Alors, il faut savoir que cette réalité sur laquelle je m'attarde dans les arts correspond aussi peut-être à un ancien monde, un monde en train de disparaître.
De
s'écrouler. Et c'est un peu aussi le but du livre, c'est d'en parler un petit peu avant que voilà, tout ça s'efface. Alors, en devenant correctrice dans la presse, j'ai découvert, à ma grande surprise, donc ces liens historiquement forts en France, notamment en Belgique aussi, je crois, entre le métier de correcteur et les milieux anarchistes, libertaires, voilà. Et a priori, ce lien m'a semblé contradictoire, mais bon, c'est
étrange, parce que quand on est libertaire, on s'occupe pas de corriger les fautes, on s'occupe pas de maintenir l'ordre, en quelque sorte, dans la langue.
Mais disons que cette apparente contradiction, parce que, en fait, c'est pas si contradictoire, parce que souvent, les anarchistes, historiquement, ont été des amoureux de l'écrit, et donc, qui dit savoir, écrit, tout ça, mène facilement à la presse, à l'imprimé, à l'impression. J'ai perdu le fil de ce
que... Non, donc ça peut paraître paradoxal, mais ça l'est pas tant que ça.
Voilà, parce que, en fait, c'est lié à l'histoire syndicale, beaucoup. Mais cette contradiction, cette apparente contradiction n'est qu'un point de départ, parce que je n'ai pas voulu, moi je ne suis pas sociologue, je viens de la littérature.
Non, c'est un texte de littérature,
poésie.
C'est pas du tout un essai, votre livre, bien sûr.
Voilà, il faut le préciser. Je n'en ai fait qu'un point de départ, et je me suis donc intéressée à l'histoire syndicale un petit peu pour comprendre l'origine de ce lien, mais ce qui m'a frappée tout de suite, ce sont des figures singulières. Donc c'est dans ce sens, je trouve très intéressant l'ouvrage de Hugo Touzet, mais effectivement j'ai l'impression moi de dans ce livre, dans les arts, de m'intéresser plutôt à, disons, à l'inverse de l'échantillon représentatif d'éléments perturbateurs ou d'anomalies ou de un petit peu à l'inverse de ce qu'on pourrait
mais ce qui m'a intéressé en vous mettant tous les deux l'un et l'autre dans la même émission, c'est au fond de s'intéresser à deux métiers qui sont appuyés sur des savoir-faire, qui ont à voir avec l'espace public, avec les médias, de manière extraordinairement différente, et qui aujourd'hui sont bousculés par l'intelligence artificielle de façon très différente. D'un côté, évidemment, les sondages avec les données, et puis les correcteurs qui ont tendance à être remplacés de plus en plus par des logiciels. Beaucoup de postes ont été supprimés. Vous le disiez, ce que vous décrivez est un monde qui est en train de se lézarder, pour le coup.
Oui. Alors, c'est intéressant parce que on prédit la fin du métier de correcteur depuis assez longtemps. Vous parliez de Boutmy tout
premiers,
à l'heure.
Parmi les premiers métiers à disparaître.
Oui, voilà, parce qu'il évolue au fil des évolutions aussi techniques et technologiques. Et donc, depuis longtemps, on prédit la fin de ce métier. Et en même temps, comme je l'ai dit parfois, les fautes ont de l'avenir, je pense. Et donc, il faut bien des gens pour corriger les fautes. Et puis, l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est pas très concluant. Enfin, les résultats. Mais effectivement, ce sont des métiers qui sont menacés aussi par la recherche du rendement, évidemment.
Donc, mais j'ai appris une chose en vous lisant, c'est que beaucoup de correcteurs au 19e siècle, au 20e siècle, étaient en fait d'anciens typographes qui n'avaient plus la force physique de faire ce métier à l'époque où il fallait soulever les caisses de fonte, hein, de police en plomb pour composer les textes, et qu'au fond, c'était une forme de reconversion professionnelle, la correction. Et je ne l'avais jamais vu comme ça, parce que peut-être j'ai été marqué au fond par la visite de cet endroit extraordinaire que je conseille à tout le monde de visiter, qui est la maison de Christophe Plantin à Anvers, qui a été la première maison d'édition globale au fond sur la planète, et dans laquelle il y a la pièce des correcteurs, ce fameux cassetin dont vous parlez. Au fond, on a l'impression, ce sont des sièges hauts, on a l'impression que ce sont véritablement les trônes de cette entreprise, une des premières entreprises de la mondialisation culturelle, en fait, à Anvers. Donc, je m'étais fait de ces correcteurs une image des souverains, en quelque sorte, de la fabrique des livres de l'époque.
Alors, oui, c'est pas tout à fait... Enfin, le castin, l'image du castin... En couverture de mon livre, on peut voir une casse. Et donc, le castin, c'est la petite case dans laquelle on rangeait les caractères typographiques en plomb. Et le castin, pourquoi on utilise cette image? C'est que souvent, c'est au contraire une toute petite pièce, parce que bon, le correcteur, on lui accorde assez peu de place, finalement. Mais j'aime beaucoup l'image
juste que vous me rapportez. Des piles de dictionnaires autour de soi. Voilà. Bien protégées, des murailles de dictionnaires.
Voilà. l'image est très juste. Oui, ben, il faut que je visite cet endroit.
Ah oui, c'est un endroit absolument extraordinaire. Mais dans votre livre, on peut aussi parler de l'autre dimension, parce que dans les arts, vous tissez au fond un parcours professionnel, une découverte de votre part de cet univers professionnel, mais qui fait écho à un autre environnement professionnel qui est celui de votre père, sur un autre continent, puisque vous venez du Canada, mais qui est aussi un métier manuel, un métier très précis, minutieux, d'électronique, de soudure, que vous décrivez également avec un atelier.
Oui. Pareil, en suivant cette formation, j'ai suivi une formation quand même avant de devenir correctrice dans la presse, puisque j'avais été correctrice dans l'édition. Il y a des nuances entre les deux métiers. En apprenant que le métier était en train de disparaître, ça m'a fait rire, puisque je me suis dit, tiens, voilà, ça m'a fait penser à mon père, que j'ai vu toute sa vie... exercer un métier avec passion, avec énormément de soin, avec énormément de, je pense, de savoir-faire, mais à devoir, disons, de plus en plus travailler pour de moins en moins d'argent, parce que il est réparateur de moteurs et outils électriques. Il était réparateur de moteurs et d'outils électriques, et de plus en plus, je le voyais. J'ai travaillé avec lui l'été, et je le voyais proposer à des clients faire des devis, et les clients, ben, de plus en plus décidaient d'acheter un moteur neuf plutôt que de le faire réparer. Et donc, en apprenant ce métier, j'ai tout de suite fait un parallèle, un lien avec mon père, et mon père qui est aussi un passeur de savoir dans un autre, faudrait avoir plus de temps pour en parler, mais et j'ai fait donc un parallèle avec certaines personnes qui m'ont appris beaucoup du métier de correcteur, et donc cette image de passeur de savoir, mais dans une idée de gratuité, de générosité, de souci du travail bien fait, voilà. Donc c'est ce que j'aborde aussi dans le livre, effectivement.
Hugo, tous ces soucis qu'on retrouve à leur manière chez les sondeurs, enfin, ouais, le travail bien fait, on le voit dans votre livre, hein, ils sont...
Et dans beaucoup de métiers. Moi, j'ai adoré votre livre qui est pas du tout une enquête sociologique, mais qui est à plein d'égards une enquête sociologique. C'est, on retrouve vraiment dans la description ethnographique de l'atelier, des choses qu'on pourrait retrouver chez Robert Linhart dans L'Établi. Et il y a des choses, quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que vous décrivez, que ce soit d'ailleurs dans l'atelier de votre père ou dans le travail de correctrice, et même dans la librairie, vous travaillez avec ce couple, à la fois une description du capitalisme qui appauvrit, qui abîme le travail, etc. Et en même temps, toujours... de la place pour des résistances, pour du jeu, pour préserver du sens à son travail, pour essayer de garder, vous avez dit, de faire le beau travail, le meilleur travail possible, même dans ce cadre-là. Et je trouvais que ce livre, il est, de ce point de vue-là, très beau. Et comment est-ce qu'on fait, même dans les métiers en danger, même dans les métiers qui sont en voie de disparition, en tout cas annoncés, on fait pour garder du sens, pour jouer avec les contraintes. J'ai bien aimé quand vous parlez de l'importance de faire preuve de souplesse dans la rigueur, ou de savoir jusqu'où vérifier en même temps prenant compte la contrainte de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les sondeurs que j'ai étudiés, mais dans, à mon avis, beaucoup de travail.
Je voudrais, alors ce livre s'appelle Lézarde, et vous avez mis en exergue cette définition des lézardes, raies blanches produites dans la composition par la rencontre fortuite d'espaces placés les unes au-dessous des autres, on y remédie par des remaniements. Alors cette définition, elle est celle de Eugène Boutmy dans le dictionnaire de l'argot des typographes. Eugène Boutmy, ce n'est autre que le frère de Émile Boutmy. Émile Boutmy, c'est le nom d'un amphithéâtre à Sciences Po où la plupart des sondeurs que vous avez étudiés, Hugo Touzé, sont passés. Donc c'est aussi le fondateur de l'école libre des sciences politiques qui est devenue Sciences Po, le creuset des sondages. Eh bien voilà, d'un côté le frère typographe, et de l'autre le frère proto-sondeur en quelque sorte, les frères Boutmy en exergue de cette suite dans les idées. On trouve les références bibliographiques des deux ouvrages sur la page de l'émission.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
On va du côté de la Maison des Sciences de l'Homme, de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, maintenant, pour parler du lancement d'une nouvelle chaîne, mais pas n'importe laquelle, de Canal U. Avec vous, Damien Poivet, vous êtes ingénieur de recherche, vous êtes responsable de Canal U. Peut-être avant de parler de cette nouvelle chaîne qui concerne les documentaires, on peut dire un mot, vous pouvez dire un mot, de Canal U, une plateforme qui permet d'accéder à énormément de production d'images, mais aussi de sons.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est bien de revenir un peu sur ce qu'est Canal U, parce que c'est sans doute un peu obscur pour la plupart des gens. En fait, Canal U, c'est une plateforme qui permet à des institutions comme des universités, des laboratoires de recherche, des grandes écoles, des bibliothèques, de publier des ressources audiovisuelles, c'est-à-dire des vidéos et des podcasts, destinés aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs, mais pour une part aussi au grand public, oui. Puisque c'est un peu l'idée d'une université populaire. Donc il y a ce double aspect, c'est-à-dire des ressources pour les enseignants et étudiants, mais aussi pour le grand public.
Ça fait 20 ans que ça existe, et ça s'est enrichi très progressivement, et ça continue de s'enrichir à un rythme de plus en plus soutenu.
Oui, tout à fait, puisqu'il y a à peu près 300 nouvelles contributions par mois, donc c'est un fonds qui s'enrichit énormément, et c'est vrai que c'est une source d'information énorme, et c'est un peu ça donne une fenêtre sur la parole des chercheurs, en fait, l'important de cette plateforme, c'est de donner un accès à la recherche en train de se faire, à la parole des chercheurs, parce que justement, ce sont des enseignants, des spécialistes qui parlent de leur recherche, qui parlent de leurs travaux.
Et dans des formats variés, c'est-à-dire vous n'avez pas des cases, en fait, vous laissez une grande liberté éditoriale à vos partenaires, oui. Simplement vous garantissez le caractère scientifique de ce qui se partage là. Alors parfois ça peut relever de certaines formes de vulgarisation, parfois c'est plus ardu, il n'y a pas de raison, on peut trouver différentes facettes au fond sur Canal U.
Oui, tout à fait, il y a tous les formats, on peut aussi bien trouver des conférences, même des séminaires, que des documentaires ou des formats très courts qui sont de la vulgarisation scientifique. tous les formats sont ouverts, sachant que l'intérêt de Canalu, c'est que tous les documents qui sont proposés sont sourcés, on connaît la personne qui parle. Quand ce sont des chercheurs, ils sont référencés en tant que chercheurs. On peut aussi accéder à leur bibliographie. Donc ça se double aspect.
C'est précieux aujourd'hui dans un univers où on peut accéder à beaucoup de choses, mais on n'est pas toujours certain de garantir en quelque sorte l'origine, la scientificité, ou en tous les cas l'univers de provenance. Enfin, là, il s'agit que de production de savoir, de la recherche publique, en fait.
Voilà, donc ce sont vraiment de la parole de spécialistes. Et bon, souvent, je dis pour éclairer un peu, savoir qu'est-ce que Canalu, je dis que c'est un peu le YouTube de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais bon, ça, c'est juste pour le côté, justement, ouvert à tous. Au-delà de ça, c'est quand même une plateforme qui est financée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, les institutions sont des universités, tous les contributeurs sont garants de la justesse du contenu. Et je pense que c'est vraiment important, justement, on parle souvent de l'intelligence artificielle qui est un petit peu, qui donne de l'information sans vraiment donner ses sources. Moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est comparer justement les nourritures de l'esprit avec les nourritures, l'alimentation.
Qu'on puisse traquer, au fond, la provenance.
C'est-à-dire que ChatGPT, c'est un peu les aliments ultra transformés. Canalu, c'est plutôt le slow food, c'est la connaissance en circuit court.
Alors, la nouveauté, et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, Damien Poivet, c'est le lancement très récent, la semaine dernière, d'une nouvelle chaîne sur Canalu, parce que la plateforme est structurée de diverses manières. On peut, avec des moteurs de recherche, trouver en fonction des disciplines, des domaines, des auteurs, etc., bien sûr. Mais il y a aussi des chaînes. Or, il y a une nouvelle chaîne, Focale, au pluriel, qui m'a semblé très intéressante parce qu'elle vise à mettre en valeur des documentaires qui ont été ou qui sont réalisés par des chercheuses et des chercheurs. Or, on sait que aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouvelles écritures des sciences humaines et sociales se multiplient. De plus en plus de chercheurs et de chercheuses recours à d'autres formats que l'article type ou le livre pour partager les résultats de leurs recherches. Ça existe depuis fort longtemps, mais aujourd'hui, ça prend une importance de plus en plus grande. On voit des films documentaires en particulier ou des productions audio documentaires réalisées par des chercheuses et des chercheurs. C'est tout ça que vous avez eu envie de regrouper dans une chaîne.
Oui, tout à fait, parce que souvent, ces documentaires qui existent depuis bien longtemps, ils ont des durées de vie assez courtes, c'est-à-dire que le chercheur va produire son documentaire, il sera distribué dans des festivals, et puis après, il disparaît, il reste sur des étagères. Et c'est une perte à la fois de connaissances, une perte d'argent, parce que souvent, c'est des fonds publics qui ont été investis dans la réalisation de ce documentaire. Et c'est dommage que tout le monde n'y ait plus accès. Et donc, c'est vrai que via Canalu, c'est vraiment une porte d'entrée tout à fait intéressante pour donner de la visibilité à tous ces contenus. Et ça fait vraiment partie de l'essence de ce qu'on essaye de faire sur Canalu, c'est-à-dire donner des outils de partage de la connaissance scientifique, mais pas par des médiations, mais pas vraiment par la personne qui fait la recherche, par la parole du spécialiste. Et donc, à travers ces documentaires, qui d'ailleurs peuvent prendre beaucoup de formes, on a à la fois des documentaires habituel qu'on peut voir à la télévision, mais on a aussi des podcasts, des documentaires audio, et plus tard on pourrait même aller jusqu'à des formats bande dessinée ou autre. Donc c'est vraiment une forme de communication qui est, je pense que beaucoup de chercheurs ont envie de communiquer leurs travaux au grand public ou même à leurs collègues d'une façon un peu différente, et tous ces formats-là sont vraiment en plein essor.
Et vous l'avez fait en partenariat avec un festival qui se tient depuis quelques années maintenant sur ces nouvelles écritures documentaires, d'où la présence lors de la soirée de lancement d'un anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, Boris Petrich, qui lui-même réalise des films. Il est en train d'en tourner en ce moment. Il en a fait un il y a quelques années sur le vin en Chine. Il travaille à un tout autre sujet en ce moment dans le sud de la France. Mais voilà, vous vous êtes rapproché aussi de ce festival qui est l'un des lieux de rencontre de tous ces gens qui s'intéressent à trouver de nouveaux format.
En fait, la réalité, c'est plutôt le festival
qui
a fait apparaître ce besoin-là. Et étant donné notre position, on s'est dit pourquoi pas proposer les services de Canalu pour diffuser ces productions. Mais c'est vrai que c'était au départ Focus, le salon Focus, qui essayait de donner plus de visibilité à toutes ces productions.
Alors peut-être un mot juste, puisque pour la soirée de lancement la semaine dernière, vous avez choisi de montrer un film de Marie Luçon et Émilien de Bortoli qui s'appelle Méandre. De quoi s'agit-il ?
Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est un documentaire. Enfin, faudrait, la personne qui l'a réalisé en parlerait certainement mieux. Enfin, c'est un documentaire qui essaye de façon très esthétique, en tout cas, de montrer l'évolution d'une rivière, enfin, avec justement les questions de changement climatique, de comment elle a vu le paysage de son enfance, qui était cette rivière-là, se transformer au fil des années. Et donc, au-delà de cette introduction poétique, quelque part, en fait, il y a aussi tout l'aspect scientifique, justement, de voir comment justement un paysage, une écologie évolue au cours du temps et en fonction de ce que les changements à la fois de température, de pollution peuvent produire.
Merci beaucoup, Damien Poivet. Donc, la chaîne plateforme sur Canalu, on trouve les références sur la page de l'émission. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy à la réalisation.